Et c'est parti pour la deuxième édition de la web radio liée aux portes ouvertes du lycée Pierre et Marie Curie. En effet, l'an dernier, on avait une bonne dizaine d'anciens élèves. On a renouvelé l'expérience cette année. Et nous avons le plaisir d'accueillir, alors je commence non pas par les jeunes filles, je commence par ce qui me vient le plus proche, c'est-à-dire géographiquement et visuellement. Donc Thomas Giraud, ensuite Joris Delarbre, Mathilde Figuin et Michel d'ailleurs.
Caputo,
voilà. Donc je vais leur laisser en fait la parole. L'objectif en fait c'est que des anciens racontent leur expérience au lycée Pierre et Marie Curie, les bons et peut-être une petite anecdote ou des moins bons souvenirs, hein, une anecdote un peu drôle, on en avait eu quelques-unes puisque Joris revient récidive pour la deuxième année. Et puis évidemment ce qui est intéressant c'est l'après Curie, un cursus. Alors, je vais commencer les jeux de mots pourris, épicés, et de nous raconter, en fait, qu'est-ce que vous avez fait après le bac, et ce qui vous a plu également dans vos études, dans votre métier, puisque Thomas est déjà sur le marché de l'emploi et fait avec grand amour son métier. Mais j'ai assez parlé, je laisse la parole aux jeunes. Thomas, à toi.
Allez, bonjour, merci Thierry pour cette petite présentation. Donc moi je m'appelle Thomas Giraud, j'ai 30 ans dans quelques jours, le 31 mars. Je prends un petit coup de vieux parce que j'étais là au lycée de 2009 à 2011, donc j'étais diplômé du baccalauréat, donc l'ancienne version du bac en 2011. Et là c'est vrai qu'en rentrant dans le lycée, j'ai pris un petit coup de vieux. Bon, il y a quelques bâtiments qui n'ont pas changé, hein. L'internat où j'ai passé mon année de terminale, visuellement, extérieurement, n'a pas trop changé. Ça m'a rappelé des souvenirs aussi quand je suis arrivé à l'ancienne cafétéria qui n'existe plus, là où j'ai passé des nombreuses heures à jouer au babyfoot avec Géraldine, qui tenait la cafette, mais surpris, agréablement surpris de la beauté des lieux, des changements qu'il y a pu avoir. Donc on m'a demandé de venir aujourd'hui pour vous parler de ce que je faisais aujourd'hui, puisque mon bac est sur l'ancienne version, donc n'a plus trop d'actualité. Moi aujourd'hui j'ai suivi après le bac mon cursus. Pour raconter mon cursus, j'ai effectué donc après mon baccalauréat scientifique, mon bac S à l'époque, une première année de médecine où je me suis engagé parce que je n'avais pas forcément d'idée en tête et que ça me plaisait, mais voilà, ce qui m'a manqué c'est surtout la motivation de travailler tout seul par rapport à cette grosse charge de travail que représente la première année de médecine, ce qui conclut par un échec que j'ai choisi parce que je n'avais pas la capacité à l'époque, quand j'avais 18 ans, de pouvoir travailler autant que ce qui était demandé pour pouvoir emmagasiner tant d'informations. Et je me suis très très vite réorienté par choix vers un IFSI, donc un institut de formation en soins infirmiers, que j'ai effectué pendant 3 ans sur l'hôpital de Monaco, l'IFSI de Monaco. Et donc à l'issue, en 2015, j'ai été diplômé, donc mon diplôme d'état d'infirmier, diplômé d'état. De là, j'ai travaillé directement sur l'hôpital à Monaco, centre hospitalier Princesse Grâce, et actuellement, je suis toujours là-bas. Je suis infirmier en réanimation polyvalente, et à côté de ça, je suis infirmier sapeur-pompier volontaire. Et donc j'effectue des missions de garde de 24 heures en moyenne dans des casernes, que ça peut aller de Menton jusqu'à Cannes, passant par la base hélico, sur terre, sur mer ou dans les airs.
Merci beaucoup Thomas pour ce petit résumé de ta vie déjà bien riche, et je sais que en plus tu as des compétences je dirais pédagogiques. Pour c'est peut-être un projet qu'on mènera ensemble dans cet établissement pour opérer une sensibilisation à la conduite, à la circulation routière pour nos jeunes qui parfois oublient de mettre des casques, roulent en scooter ou en moto en tongs, enfin les grands classiques d'ailleurs que l'on voit sur les routes et qui parfois ce ne sont pas que des plus jeunes. Alors c'est très bien parce que la transition s'opère d'une certaine manière avec Joris, puisque Joris, quand je l'ai eu en seconde puis en terminale, ne voulait faire que sapeur-pompier.
Et oui, c'est vrai, j'avais commencé en fait à partir de quatrième, je suis rentré à l'école des jeunes sapeurs-pompiers, qui est une école proposée à Menton et dans d'autres casernes partout en France, qui nous permet de, pendant 4 à 5 ans, se former au métier de sapeur-pompier pour éviter de passer par une formation initiale. Une formation initiale, ça va être 6 mois de formation, si je peux dire, intense, alors que là, toute la formation est répartie sur 4 heures de cours par semaine, ce qui en plus permet de motiver, enfin, moi perso, me permettait de me motiver, d'aller toujours plus loin en métier, etc. Arrivé au fin collège, je savais déjà que c'était ça que je voulais faire, donc j'avais complètement envie d'arrêter l'école. Mes parents m'ont quand même demandé de continuer pour aller en lycée général, et quand je suis arrivé en seconde, bah l'école ça me plaisait pas du tout, donc j'avais qu'une envie, c'était de me barrer vite pour pouvoir faire ce que je voulais faire. À 16-17 ans, j'ai obtenu mon diplôme de sapeur-pompier volontaire, je suis donc rentré à la caserne de Menton, ça me plaisait énormément. Et quand je suis arrivé en terminale, avec les nouvelles plateformes d'orientation, avec Parcoursup, j'étais obligé de mettre des vœux. Quoi que je fasse, même si mon parcours voulait sortir de Parcoursup, j'étais obligé de mettre des vœux. Donc forcément, j'ai mis des vœux en lien avec ce qui me plaisait. Je suis énormément passionné par le sport. J'encadre dans un club d'athlétisme depuis déjà pas mal d'années. Et c'est aussi ma passion. Et du coup, j'ai décidé de mettre des vœux en lien avec ma passion. Donc j'avais mis plusieurs formations, certaines un peu plus loin d'ici. Et franchement, j'étais pas prêt à bouger. Je les avais mis juste pour voir si j'étais capable de rentrer, si mon dossier allait être accepté là-bas, et j'avais mis le STAPS de Nice. Et j'ai été pris en 3 jours, à ma plus grande surprise, alors que mes notes, normalement, ne me faisaient pas rentrer en 3 jours. J'avais des amis qui avaient des bien meilleures notes et qui n'ont pas été pris tout de suite. Et quand j'ai vu que j'avais cette opportunité, la chance qu'on m'offrait de rentrer tout de suite en STAPS, avec grâce à mon implication avec les pompiers, avec le sport à côté, que j'encadrais déjà des gens, que voilà, j'avais fait plein de choses autour du lycée, bah je me suis dit, écoute, rentre, tente STAPS et on verra bien. Et au final, bah, j'ai fait 2 semaines en STAPS et je suis resté. Et là, je suis en L2 anticipé à Nice.
Merci beaucoup, Joris. Et en effet, c'est intéressant et c'est bien. Moi, ton expérience, je l'offre à mes élèves en leur disant toujours, faites des choix quand même sur Parcoursup, parce qu'en effet, on peut avoir à un moment donné aussi des réorientations. On se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on veut faire, parce qu'en fait on a une méconnaissance des métiers et des professions. En fait, on se rend compte que on se rend compte de la réalité d'un métier que quand on l'exerce vraiment ou quand on est au contact. Et ça, c'est vrai que c'est important, justement. En fait, on se rend compte que nous, on est des êtres en construction, surtout à vos âges, entre 15 et 25 ans. On le sait, d'abord, le cerveau, c'est pas un infirmier que j'apprendrai ça. Le cerveau, finalement, il se construit et s'achève vraiment entre 20 et 25 ans. Et forcément, nos désirs, nos envies, nos projets aussi sont en maturation.
Et puis je pense aussi, par rapport à ce que tu dis, moi, on m'avait dit, oui, STAPS, si t'es pas bon à l'école, t'y arriveras pas et tout ça. Et bon, c'est peut-être pas que j'étais pas bon à l'école, mais en tout cas, j'avais pas envie de travailler. Bon, au final, j'ai quand même redoublé ma première année, mais à cause de l'anglais, donc ça, c'est autre chose. Mais toutes les matières les plus compliquées, toutes les physiologies, anatomie et tout ça, au final, j'ai réussi à le passer. Je pense que c'est juste qu'on n'a pas la connaissance, comme tu dis, du métier, et on se dit, bon, ben voilà, on n'y arrivera pas parce que c'est trop scientifique, alors qu'en fait, une fois qu'on est dedans, si ça nous plaît, même que ça soit scientifique, on peut très bien y arriver.
Oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a 2 choses, c'est que tu es un garçon intelligent, et je ne dis pas parce que pour te flatter, mais flemmard. Et je me rappelle d'une discussion avec ta maman où je t'ai convoqué au deuxième trimestre, parce qu'en fait, je voyais bien que tu étais en train de prendre un mauvais chemin alors que tu avais les capacités et que c'était du gâchis. Et je me rappelle, tu me disais déjà depuis le début de l'année scolaire que tu voulais faire pompier et qu'à la limite, tu pourrais très bien quitter le lycée sans avoir le bac et que tu ferais quand même pompier. Et l'objectif, c'était de maintenir jusqu'au bac, mais tu es intelligent. Et les êtres humains qui sont intelligents, qui sont flemmards, à un moment donné, c'est rattrapable. Parce qu'en fait, alors quelqu'un qui est un peu moins intelligent mais qui est bosseur, c'est aussi rattrapable. Parce qu'en fait, c'est par la persévérance et le travail qu'on arrive finalement à compenser les petites fragilités. Et la deuxième chose, auquel je crois fondamentalement, parce que moi, j'ai fait par exemple un bac STMG d'aujourd'hui, un nombre de profs qui m'ont dit « vous n'arriverez jamais à réussir en fac d'histoire et être prof d'histoire géo », j'en compte un certain nombre. Heureusement, de l'autre côté, j'ai eu quelques profs qui m'ont dit « mais tente ». Et de toute façon, avec de la passion, on arrive. Et ça, j'en suis convaincu que quand on est passionné par quelque chose, on arrive à déplacer des montagnes. Et que, en fait, quand on est passionné par quelque chose, on a moins l'impression de travailler. C'est moins douloureux. Alors, ça peut être douloureux aussi. Et puis, je me suis pris des plombs comme tout le monde. J'ai aussi, heureusement, réussi un certain nombre de choses. Mais avec la passion, le chemin, je dirais, est moins douloureux que quand on n'est pas passionné. Pourquoi tant d'élèves, en fait, parfois décrochent ou, en effet, n'ont pas de bons résultats? Parce qu'en fait, il y a un moment, ils ne sentent pas de sens à leur présence au lycée. Et donc forcément, c'était un peu ton cas, hein, dire oui. Voilà, ta passion en plus, hein, c'était de l'athlétisme, c'est tout à fait autre chose. Et en fait, bon, ben, oui, on travaille pas parce qu'en fait, on a d'autres centres d'intérêt ailleurs, en dehors de l'école. Et ben, en fait, tout l'enjeu, je pense, quand on a vos âges, c'est en fait de trouver le chemin. Et tu le disais, Thomas aussi, c'est intéressant. Hein. Tu disais que bon, finalement, t'as fait une première année de médecine. Hein, ta future femme, hein, d'ailleurs, faisait aussi médecine. Hélène, hein, elle voulait faire médecin depuis la seconde. Bon, elle a fait médecin. Mais à un moment donné, je crois que quand on n'est pas forcément convaincu par ce qu'on fait, vaut mieux, en effet, trouver une voie ailleurs, parce que de toute façon, il n'y a pas de sous-voie. Il n'y a que des voies qui sont les mieux adaptées à soi-même. Ça me permet de faire la transition vers Mathilde, qui est une petite jeune, la plus petite de cette équipée, et qui va vous raconter son expérience en fac de droit.
Ben, moi, j'ai un parcours beaucoup plus simple. Je suis en première année de droit à Nice, et moi, ça se passe plutôt bien. J'ai réussi mon premier semestre et je suis passée par une voie ESABAC qui, j'avoue, m'a pas beaucoup servi. Mais j'ai quand même réussi mon diplôme ESABAC et mon bac. Et maintenant, je poursuis mon parcours à Nice tranquillement et sereinement, sans souci et sans problème.
Et alors, en fac de droit, vous étiez nombreux en septembre 2022. Vous êtes combien aujourd'hui?
Alors, on était beaucoup, on était plus de 300, je pense, dans notre amphi, et maintenant, on est une bonne centaine. Donc, il y a un tiers qui est parti naturelle. Déjà. Ouais, là, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est parti, et puis...
Bah oui, des gens qui, en fait, s'étaient inscrits en fac de droit un peu par défaut, et qui, en fait, à un moment donné, n'ont pas, je pense, trouvé la motivation. Et c'est pas évident. En quelques mots, comment tu décrirais l'ambiance, le cursus de la fac de droit? Vous faites quoi qu'est-ce que vous étudiez comme matière?
Bah, on fait beaucoup de droit, hein. On fait beaucoup forcément. De droit de plein de choses différentes. On étudie le droit des personnes, on étudie le droit des biens, le droit des meubles, le droit des immeubles, le droit constitutionnel, donc le droit sur le droit privé, le droit public. Mais après, l'ambiance, c'est une ambiance assez particulière, puisque c'est beaucoup de... Fin, en droit, malheureusement, c'est beaucoup de compètes. C'est de la compétition, c'est « Ah bah, il a eu combien ?» Ah bah, ah
ouais. Dès la première année.
Dès la première année, c'est de la compétition, et j'avoue que je connais pas grand monde à la fac, parce qu'on cherche pas à faire des amitiés. Enfin, mes parents m'avaient dit « Oui, tu vas voir, la fac, c'est génial, on fait beaucoup de connaissances et tout. » Bah, je me suis fait quelques copines, oui, mais sinon...
Mais tu ne sais jamais trop ce qu'elles en pensent, ou si elles sont pas prêtes à te poignarder dans le dos, c'est ça?
Non, elles, je sais ça qu'elles va. Elles seront gentilles avec moi, mais le reste, je me méfie et je fais part d'aucune faille face à tout le monde, parce que je sais que c'est la compétition de toute façon, et que on nous a dit, dès le début, on nous a dit y aura qu'une trentaine de personnes qui vont passer. Donc une trentaine sur 300, c'est pas beaucoup. Donc, on essaie de donner le maximum, et j'avoue que non, je connais pas énormément de monde autour de moi, et voilà, quoi.
Mais bon, ça va, tu le vis bien.
Oui, de toute façon, oui. Si je suis là, c'est que ça va.
Bon, c'est des anciens. Michel, toi aussi, tu es passé par l'université. Alors, est-ce que en fac de langue, c'est la même ambiance?
Nous, on a eu la chance d'avoir une petite promo. Donc c'est une ambiance famille, on apprend à se connaître, on se fait des amis, donc c'est pas pareil, il y a peut-être un peu de compétition, mais pas au final, pas tant que ça.
En tout cas, peut-être pas en première ou en deuxième année.
Non, mais en fait, c'est que ça se ressent un tout petit peu plus au niveau de la troisième année, effectivement, parce qu'il y a les entrées en master, et c'est en troisième année, en fait, qu'on choisit notre orientation, donc ou recherche ou renseignement, et donc faut avoir, finalement, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui postule à chaque fois, faut quand même avoir un bon dossier, et oui, ça se ressent un peu, mais finalement, ça reste une petite famille, et si on a besoin, ils sont là.
Très bien. Alors toi, t'as aussi fait un bac ESABAC. Je pense que cette opportunité t'a été plutôt une grande chance.
Ben alors oui, parce que j'ai fini en fac d'italien. Donc du coup, l'ESABAC, ça, ça a permis de continuer dans cette lancée, en fait, de la littérature, l'histoire de l'Italie. Ça m'a énormément aidée, mais bon, après, il y a aussi les origines italiennes qui aident pas mal. Et donc, ouais, ça a été une bonne expérience parce que ça a permis aussi de découvrir l'Italie enfin, par rapport au voyage et même par rapport aux échanges scolaires qu'on a fait. Donc, c'était une bonne expérience et même ça, je dirais même que ça m'a servi au-delà de la licence et du master MEF, puisque après le master MEF, j'ai intégré le master en
documentation. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le master MEF?
Alors, le master MEF, c'est le master enseignement, en fait, où on nous apprend à être prof. Donc là, dans ce cas-là, prof de langue. Il y en a un peu partout en France. Il y en a un à Nice, un à Aix. Enfin, voilà, les grandes universités. Et au-delà, je disais, les ABAC, au-delà du master MEF italien, m'a servi finalement aussi pour le master documentation que j'ai intégré par la suite.
Oui, parce qu'en fait, finalement, tu t'es rendu compte qu'être prof d'italien n'était pas aussi plaisant pour toi que ce que tu imaginais.
C'est plaisant parce que j'ai encore 4 heures d'enseignement encore cette année, comme l'année dernière, dans un établissement privé hors contrat. Donc il y a des aléas bien sûr, mais comme dans tout métier, enfin, et de toute façon vous en êtes témoin, c'est pas toujours facile d'être face à des élèves qui ont pas forcément envie à chaque cours, mais non, c'est plaisant. C'était plutôt le master qui finalement ne me connaît peut-être pas, en tout cas pour la deuxième année, parce que la première année, liscio come l'olio, diciamo.
Enfin, qui veut dire
que c'était dur, mais finalement ça a été. Et la deuxième année, en fait, on doit faire le mémoire par rapport à notre stage. Donc, si on n'a pas le CAPES, on n'a que l'expérience du stage finalement. Et déjà rien que par rapport à ça, c'est un peu plus compliqué de se positionner par rapport à quelqu'un qui est titulaire.
Et donc du coup, réorientation vers un master de documentation, c'est ça ?
Oui, ben alors finalement, je comptais quand même le faire, parce qu'en fait, pendant mon stage, mon premier stage de master 2, parce que j'ai redoublé mon master 2, de MEF, j'étais avec Madame Orioli à Mauroy, et ils avaient un projet autour du concours de la résistance, et ils emmenaient les élèves aux archives. Et à partir de là, ben, découverte des archives. Et j'avais en tête, en fait, déjà de faire quelque chose dans les tout ce qui est bibliothèque, archives. Mais je savais pas trop. Et finalement, je me suis dit, bon, ben, ça confirme bien mon choix. J'ai envie de faire autre chose, que j'obtienne ou pas le MEF après. Parce que de toute façon, le concours, ça me disait plus grand chose. Et j'ai intégré le master monde du document de Nice. Et bon, après, il y en avait un autre à Aix, mais je me sentais pas forcément de partir. Donc, j'ai postulé à Nice, j'ai été prise. Et l'expérience ESABAC et d'italien m'a servi, puisqu'en fait, en discutant avec les profs, une des profs m'a dit, ben, ça peut être, enfin, c'est pas mal, parce que dans les centres d'archives ou même dans les bibliothèques, il y a des fonds spécialisés. Et surtout dans la région, ils peuvent être amenés à rechercher des personnes qui sont bilingues ou du moins presque bilingues en italien, qui connaissent la littérature, l'histoire de l'Italie. Et mon premier stage en archives, ça a été au fonds SARD des archives départementales.
D'accord. Donc, voilà. Là, des perspectives de professionnels dans ce domaine-là plutôt.
Oui, et finalement, bon, après la deuxième année Master 2, j'ai fait mes stages en bibliothèque et ici avec Madame Castellani.
Vous avez ici présente qui est aux manettes.
Oui, et ça m'a plu pour les deux stages. J'ai fait mon mémoire sur l'incitation à la lecture chez les jeunes.
Ah, donc, c'est un sujet intéressant.
Et d'ailleurs, il y a encore des traces de ce que j'ai fait au CDI. Donc, petite fierté à chaque fois que j'y passe et merci, c'est bien.
Et alors, c'est quoi les traces au CDI?
C'est les livres.
J'ai vu des traces de confiture, mais c'est pas ça.
Non, c'est les livres en facettes. Alors les livres en facettes, c'est une technique de marketing à la base, mais très utilisée pour, dans les bibliothèques.
C'est-à-dire, c'est le, quand on rentre au CDI, les livres en fait dont on voit le, la, la, la première de couverture. Ah oui, c'est vrai, très, c'est très juste parce que j'ai emprunté les livres parce que j'ai vu en effet. ouais, bah, bravo.
Et c'est les petites, la petite affiche au niveau de la sélection sur l'égalité femmes-hommes.
Ah, mais ça c'est pour faire plaisir à Mme Catanozzo. Qu'on salue d'ailleurs.
Non, 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 Madame Catanozzo, c'était la sélection sur les livres historiques, je crois.
Aussi, hein, Madame Catanozzo est partout, okay. En fait.
Et sur, je vais y arriver, sur le site du EasyDoc.
Voilà. Ah oui, EasyDoc, qui est très utile d'ailleurs.
Il y a les sélections thématiques que j'avais fait, donc romans historiques, la sélection de Madame Catanozzo et de Célia sur l'égalité, et les romans fantastiques. Et puis il y en a d'autres qui ont été ajoutés. D'accord.
Donc en fait, on va vous recruter.
Et là, actuellement, je travaille aux archives municipales de Menton.
D'accord. Très bien.
Donc finalement, je continue.
Merci beaucoup Michel et merci à toutes et à tous pour ces témoignages extrêmement riches.